Membre. Donc en effet, la nationalité conditionne l'accès à la citoyenneté européenne. Et on a toute une série de droits, qui sont des droits civils, des droits politiques, comme le droit de vote au Parlement européen, qui accompagnent cette citoyenneté.
Ouais.
Avec la jurisprudence de la Cour de justice, on a aussi des droits sociaux qui ont permis l'ouverture des États-providence à des travailleurs migrants, puis à des citoyens qui sont en effet des citoyens qui circulent au sein de l'Union européenne. Et donc si vous voulez, la citoyenneté européenne, ce n'est pas une citoyenneté qui a exactement la même envergure que la citoyenneté nationale. Et les droits politiques sont moins forts, ça on peut le dire de manière très claire, hein, même s'il y a l'élection au Parlement européen.
Elle s'ajoute néanmoins.
Et ça s'ajoute. Ouais. Et ça permet aussi de garantir les droits nationaux. Ce n'est pas quelque chose qui se substitue, hein, mais quelque chose de complémentaire. Ça permet d'ajouter une strate de droits qui permet aussi d'avoir une meilleure garantie de nos droits fondamentaux. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience.
Non.
Y compris dans la strate des droits sociaux. Hein, donc on parlait de la charte des droits fondamentaux qui a été effectivement voilà, mise en place en 2000. Cette charte, elle comporte toute une part qui rend les droits justiciables devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est d'ailleurs pas le cas complètement des droits sociaux. C'est un terrain de lutte politique, justement. On peut avancer aussi sur ce terrain-là.
Henri Guénaud, il y a donc une citoyenneté européenne, mais est-ce qu'il y a un peuple européen? Est-ce que ce n'est pas là la difficulté entre l'articulation entre les deux?
C'est d'ailleurs un problème qui, sur laquelle vous travaillez beaucoup, c'est la question du rapport entre souveraineté et peuple. C'est-à-dire que la souveraineté, pour moi, c'est la caractéristique d'un peuple. C'est quand on a une conscience de peuple, eh bien, on a au fond de soi cette idée de la souveraineté, encore une fois, comme une idée qu'en dernier ressort, on finit par décider quand ça nous paraît... Enfin, quand une limite a été franchie. Et c'est le propre de tous les peuples qui ont une conscience de peuple ou qui retrouvent une conscience de peuple. Hein. C'est, vous pouvez avoir un peuple qui est colonisé pendant un siècle.
Il pourrait y avoir une conscience de peuple européen, vous pensez qu'elle existe, cette conscience?
Mais non, je pense qu'elle
à part chez les étudiants d'Erasmus.
Je pense qu'elle n'existe pas, cette conscience de peuple. Il y a une conscience d'avoir une civilisation commune, des valeurs communes, etc., mais pas une conscience de peuple. Il n'y a pas de conscience de peuple. Et ça ne se décrète pas. Ça ne se construit pas par la pensée, par le droit, par les institutions. Ça n'est pas vrai. Voilà, et quand on a... Enfin, vous avez beaucoup parlé du moment hamiltonien de l'Europe, c'est-à-dire ce moment où l'Europe ferait le même chemin que les États-Unis après la guerre d'indépendance. C'est une tentative qui a été faite par les gouvernements européens au moment de la pandémie, avec le plan dit de relance. Mais vous vous rendez compte, c'est un engrenage considérable pour lequel on n'a pas consulté les peuples. Pour lequel on n'a consulté personne, même pas les parlements européens, les parlements nationaux. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer sans qu'il y ait un lien, sans que les peuples interviennent. Et encore une fois, décréter un peuple européen, ça n'est pas possible.
Henri Guénaud, c'est l'inspecteur, vous allez réagir dans...
Cher Jean Bodin, j'ai votre clistère sous les yeux, c'est puissant. Vous êtes un penseur français du XVIe siècle, né sous François Ier, mort sous Henri IV, donc bien au fait des hoquets monarchiques. Vous êtes l'inventeur du concept de souveraineté, première fondation juridique de l'État moderne. Et votre grande œuvre, les 6 livres de la République, établit entre autres que les pouvoirs du roi assurent la paix sociale. Bon, si j'avais connu l'infortuné Louis XVI, j'aurais peut-être amendé mon texte. Selon vos calculs, la monarchie doit être absolue et tempérée, c'est-à-dire totale, le roi a toujours le dernier mot, et juste, le roi respecte la justice et la liberté. Principe illustré ainsi, plus les édits et ordonnances ont été multipliés, plus les tyrannies ont pris leur force, comme il advint sous le tyran Caligula, qui, à propos et sans propos, faisait des édits et en lettres si menues qu'on ne les pouvait lire afin d'y attraper les ignorants. À vous lire, Caligula écrivait donc des lois en pattes de mouche pour piéger analphabètes et presbytes. Édifiant. Bon, si j'avais connu l'orgiaque Caligula, j'aurais peut-être pris goût à la perversion. Vous êtes une star mondiale des idées, du calibre de Montesquieu, révérée par les publicistes de tout pays, célébrée jusqu'en Amérique, où la bibliothèque du Congrès des États-Unis possède l'exemplaire de la République annoté par Thomas Jefferson et plébiscité par les souverains contemporains.
La République prend forme déjà. Dans les textes de Bodin à la Renaissance, elle s'affirme chez Condorcet, Rousseau et tous les penseurs des Lumières.
Vous avez été juriste triple A, avocat, procureur du roi. Vous avez pensé le droit international en avant-première. Mais dans votre vaste intellect cohabitent rationnel et mystique. Histoire, économie, hébreu, religion, métaphysique, astrologie, sorcellerie ou étude des démons, dont la somme fut publiée en 1580 dans De la démonomanie des sorciers. Bon, eh bien, si j'avais connu l'adulé Harry Potter, j'aurais peut-être publié des grimoires. Mon cher Jean, vous auriez assurément publié des grimoires si vous aviez connu l'UE.
Qui ?
C'est l'inspecteur, vous vous mettez dans la filiation de Montesquieu, enfin de Jean Baudin, pour défendre une république fédérative européenne. Est-ce que vous pensez que cette idée de l'Europe, celle que vous défendez, va être au cœur de la campagne présidentielle et que le sujet de l'Europe va être, comme on l'a vu avec cette histoire de drapeau le 1er janvier, le clivage de cette campagne? Ou est-ce que vous le souhaitez peut-être?
Alors oui, j'espère que la campagne fédérale sera en effet structurée par le débat fédéraliste-souverainiste. Ce que je remarque, c'est que Emmanuel Macron et La République En Marche ne se déclarent pas fédéralistes et qu'en revanche, les Verts européens et notre parti vert en France, en fait, se déclarent fédéralistes. C'est un autre clivage que la question de la souveraineté.